Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble pendant 3h, enfin si tout va bien, de midi à 15h avec Rémi Barré. Tout d'abord, bonjour Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
On est également avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Avec nous aussi le journaliste de Marianne, Perico Légal.
Bonjour
Perico.
Bonjour.
Bonsoir, non. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, c'est mieux. Et puis notre économiste préféré, Pierre Rondeau. Salut Pierre.
Salut Estelle, salut à toutes et à tous.
On sera également avec vous, bien sûr, au 3216 et sur l'appli RMC pour réagir dans un instant à l'interview d'Emmanuel Macron à 102 jours des Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture maintenue sur la scène. Sécurité, le président de la République vous a-t-il rassuré? On attend, bien sûr, vos commentaires. À midi et demi, on parlera de Jordan Bardella à 32% dans les sondage pour les élections européennes. Les jeux sont-ils faits? À 13h, un Français sur deux est à la recherche d'un véhicule d'occasion de plus de 100 000 km. La voiture est-elle devenue un luxe? À 14h, 85% de hausse des décharges à ciel ouvert. En 4 ans en France, sommes-nous de plus en plus sales? Et puis à 14h30, RMC Conso avec Charlotte Méritant, on vous donnera des astuces pour réparer votre voiture. Des astuces pour la réparer à petit prix, évidemment. Et puis on vous fait gagner des places pour les jeux, Rémi.
Exactement. Après-demain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. Nous vous offrons 100 places pour les JO sur RMC. Dans chaque émission, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des JO, cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table ou encore natation et bien plus encore. Vous envoyez dès maintenant Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Milicis sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est bien sûr l'interview d'Emmanuel Macron ce matin sur RMC à 102 jours de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain. Le président de la République a fait le point sur la cérémonie d'ouverture et sur la sécurité. Pas de grandes annonces mais un ton rassurant, écoutez.
Il y a des plans B et même des plans C.
Oui.
Je vais être très clair avec vous. Ouais. Et on les prépare en parallèle. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voire, qui rapatrierait dans le Stade de France, justement, la cérémonie, parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Et même si Emmanuel Macron s'est voulu rassurant et pédagogue ce matin au micro d'Apolline de Malherbe, les Français sont inquiets quant aux Jeux Olympiques.
Ouais, il y a encore du chemin à faire pour rassurer. Hein. C'est ce que dit un sondage Ipsos paru il y a quelques jours. Selon cette étude, 53% des personnes interrogées n'ont pas confiance dans la capacité de la France pour assurer le bon déroulement de ces JO. Dans le détail, si 66% des Français sont confiants pour l'organisation d'une cérémonie d'ouverture à la hauteur de l'événement, cette proportion est en baisse de 14 points par rapport à octobre 2023. De la même façon, si une majorité des sondés, 55%, estiment que les organisateurs et les pouvoirs publics pourront assurer la sécurité de la cérémonie, cette proportion est en baisse là aussi de 13 points. Il faudra donc rassurer, mais aussi convaincre de l'intérêt même de ces Jeux. Le premier qualificatif que citent les Français pour illustrer leur état d'esprit par rapport à ces JO, celui qui revient d'abord, c'est l'indifférence. Pour 35% de ceux qui sont interrogés, loin devant la fierté citée dans 19% des cas, ou l'impatience pour seulement 13% des personnes interrogées.
Ouais, on sait pas encore, c'est pas encore au top en ce qui concerne le moral des Français sur les Jeux Olympiques. Emmanuel Macron vous a-t-il rassuré ce matin, Perico Légas? Est-ce que vous étiez inquiet déjà?
Alors, on n'était pas inquiet puisqu'on nous avait assuré qu'il n'y aurait pas de plan B, qu'il était hors de question d'aller au Stade de France puisqu'il y avait des manifestations qui étaient prévues, des matchs. Ou d'autres manifestations. Et là, on découvre que non seulement il y a un plan B, mais qu'il y a l'hypothèse d'un risque d'attentat terroriste. Et donc, je ne vois pas en quoi, en se repliant sur le Trocadéro, on éviterait ce risque. C'est pas la réduction du territoire qui...
Mais si, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile. Quand tu délimites un périmètre, c'est beaucoup plus facile de le garder.
Vous vous rendez compte qu'on ouvre la probabilité quand même qu'il y ait un attentat terroriste. Je veux dire, c'est aberrant. D'autant que le ministère de l'Intérieur
a testé... de la Seine, par exemple, alors, qui est bien obligé de le faire ailleurs.
Le ministère de l'Intérieur a testé un test qui s'appelle Parade.
Ouais.
Contre les drones. Deux fois, dans deux sites différents à Paris, avec donc un drone qui était envoyé, subrepticement. Et les services de l'État n'ont pas pu détecter le drone, sauf dans un périmètre très restreint. Donc ça veut dire que là, alors on peut peut-être améliorer le système d'ici...
Il reste trois mois.
Ouais, mais enfin, tout ça n'est pas du tout rassurant, mais le simple fait que le président de la République dise, en cas de danger terroriste, on se replie sur le Trocadéro, alors, en quoi le Trocadéro? Alors, vous voyez, on donne explication. Comme c'est plus restreint.
Tu délimites le périmètre. C'est comme attendez. Un stade. Un stade est beaucoup plus facile, en fait, à sécuriser que la Seine.
C'est pas sur 6 km. Parce qu'on sait exactement comment les terroristes vont procéder. On a déjà leur plan, leur itinéraire. Ils ont déposé une demande.
Non, c'est pas ça, mais tu sécurises les entrées. La Seine, en fait, tu peux pas la sécuriser sur 6 km.
Non, mais un drone. Un drone.
Ah bah c'est sécurisé. Ouais.
Dans ces cas-là, bien sûr, le ciel est
sécurisé. D'accord. Non, mais
sur le Trocadéro, sur le kilomètre de Seine.
Oui. Tout va bien.
C'est encore plus simple.
Alors je retire ce que j'ai dit.
Non, mais regarde le 13.
Tout va bien. Non, mais tout va bien.
Le 13 novembre 2015, au moment des attentats dans Paris, au Bataclan et à Saint-Denis.
Oui.
On a laissé le public à l'intérieur du stade. Pourquoi on l'a laissé à l'intérieur? Parce qu'il était en sécurité à l'intérieur du stade.
Ah oui.
Non. Ils sont arrivés en retard. Ils se seraient fait exploser dans la file.
Ils n'ont pas pu rentrer.
Ils avaient prévu de se faire péter dans la file. Ils sont arrivés en retard.
Mais justement,
donc ils auraient tué des gens à l'extérieur.
Ils n'ont pas pu rentrer dans le stade. Des terroristes du 13
novembre. Ils auraient tué dans la file.
Les terroristes du 13 novembre n'ont pas pu rentrer dans le stade. Et lorsque on a compris qu'il y avait des attentats en cours dans Paris, on a laissé les gens dans le stade parce qu'ils étaient sécurisés.
Ils devaient se faire péter dans la file.
Mais attends, mais t'avais pas le plan vigilance attentat.
Ils sont arrivés en retard.
Mais c'est pas le sujet. Là, t'as le plan Vigipirate qui est en alerte maximum. C'est-à-dire que là, on s'attend à quelque chose, donc forcément, tu sécurises. Je veux dire, le 13 novembre, on ne s'y attendait pas, donc
t'es
moins bien préparé.
Alors tout va bien.
Il fallait d'une naïveté absolue pour penser qu'il n'y avait pas de plan B et de plan C. Évidemment, dans tout événement comme ça, les services, tous les services.
Pourquoi on a dit qu'il n'y en avait pas?
Parce que l'exécutif a sans doute pas. Les politiques ont voulu rassurer un maximum.
Ah bon,
mais c'est évident que dans toute manifestation, quelle qu'elle soit, nous, par exemple, quand on est dans un studio, s'il y a une panne, il y a un plan B avec un studio de secours.
Mais là, on parle des Jeux Olympiques de 2024.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a fait que avouer un truc qui était de toute façon évident. Je trouve qu'il est dans son rôle de président de la République d'essayer de rassurer en disant voilà, on avance, ne pas minimiser les
risques. Ça rassurant.
Ne pas minimiser. J'aurais juste fini une phrase.
Oui.
Ne pas minimiser les risques. Effectivement, c'est quand même plus simple sur le Trocadéro que sur 6 km de Seine. Ils avaient d'abord prévu, d'ailleurs, de éventuellement réduire le nombre de ponts entre lesquels ça se ferait, puis finalement l'eau reste compliquée à gérer, donc sur du solide, sur du le Trocadéro, ça va être plus simple. Moi je pense que voilà, il a donné des éléments. Moi je reste indifférent aux JO. Je pense que plus on va se rapprocher des JO, plus l'engouement, c'est souvent le cas pour les grandes compétitions sportives. Je me souviens exactement, on a vu ce débat au moment de la Coupe du Monde de rugby où tout le monde s'en foutait un peu, et puis plus on s'est rapproché, plus les gens ont trouvé un engouement. Moi je crois qu'il est dans son rôle de chef de l'État de rassurer, de donner des éléments, de répondre aux questions et de dire la vérité sur le fait qu'il y a un plan
tragédie. Qu'est-ce qu'on fait?
Je dis de dire qu'aujourd'hui, le président annonce, et à juste titre, qu'il y a toujours eu des plans B, des plans C, ce qui est bien normal en tant que représentant politique. Donc, là, ici, je dénonce et je condamne les propos de Tony Estanguet, président du COJOP, et d'Amélie Oudacastera, ministre des Sports, qui, eux, ont dit qu'il n'y avait aucun plan B, aucun plan C, annonçant très fièrement la cérémonie aura lieu, quel que soit le risque.
C'est ça qui inquiète.
Bien évidemment qu'il y a des plans B, des plans C, des plans A', des plans B', ce que vous voulez. Ça existe à chaque fois.
C'est obligatoire.
Et toutes les institutions, tous les organismes de sécurité le mettent en place. C'est toujours des plans alternatifs. Moi, ce que je reproche à ce niveau-là, et c'est pour ça à la question « Vous a-t-il rassuré Emmanuel Macron ?» J'ai jamais été inquiet. Je savais que la France est capable, quand même, la France, premier pays touristique du monde, elle est capable de mener à bien une cérémonie d'ouverture, d'organiser les Jeux Olympiques. Avant, on a eu l'Euro de football.
Ça, on le saura le 27 juillet.
Le 13 novembre.
Mais on a eu l'Euro de football, la Coupe du Monde féminine de football, la Coupe du Monde de rugby. On a eu plein de compétitions sportives depuis maintenant 2014. Et on serait pas capable d'organiser les Jeux Olympiques. Non, moi je pense qu'on en est capable. Il y a bien évidemment des plans B, des plans C. Je reproche et je condamne la communication extérieure à Emmanuel Macron qui nous disait que ça allait être des jeux populaires, des jeux écolo, des jeux éco-responsables, des jeux sobres environnementalement, des jeux sobres économiquement. Tout ça est faux, c'est des jeux qui vont coûter cher, qui coûtent cher, qui vont polluer, qui imposent des conditions de sécurité très importantes, mais c'est bien normal. On parle des Jeux Olympiques. 3 milliards de spectateurs et téléspectateurs sur supporters, 10 millions de personnes à Paris pendant l'été, bien évidemment que c'est un truc monumental. 56 Coupes du Monde en même temps. C'est normal qu'il y ait autant de pression.
Mais l'organisation n'est pas en cause, elle sera irréprochable. On sait faire ça parfaitement. Je parle du risque de prévention.
Mais tous les niveaux, il existe.
Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un risque d'attentat. Non,
mais nous commentons la phrase présidente de la République en disant, en cas de... Ah bon, donc vous admettez la possibilité qu'il y en ait une.
S'il avait dit, il n'y a aucun risque, venez tranquille, je vous l'assure, etc. Non, là, il est honnête, il te dit, il y a un risque.
Ils ont dit jusqu'à présent.
Non,
il n'a pas parlé qu'il n'y a pas de risque. Il a dit on va faire, il n'y a pas de plan B, on va faire la grande.
Voilà,
et là, maintenant, on va faire formule restreinte. Ça veut quasiment dire qu'elle est décidée. Il annonce.
Mais
à l'avance,
ils ont déjà beaucoup restreint. Ils ont beaucoup restreint là, déjà.
Donc il annonce.
On parlait d'un million de personnes en 2017.
Et là, on est à 220 000.
Aucun élément rassurant n'interviendra d'ici le mois de juin pour qu'on n'aille pas au Trocadéro. Donc on sait que c'est au Trocadéro. Voilà.
Voilà, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que la répétition n'a pas pu se faire parce que la scène était en crue. Donc ça, c'est un autre souci. On n'en a pas parlé ce matin, mais voilà, il y a d'autres soucis. Vous voyez, il y a le terrorisme, mais il y a aussi la scène.
Quant à l'état de l'eau, je vois pas par quel miracle écologique il pourrait faire en sorte que la scène soit.
Il y a un bassin d'épuration qui va sortir de terre en mai prochain. Et lui, ce qu'il prévoit, c'est que pour mai prochain, on ait ce bassin pour nettoyer la Seine et qu'on puisse s'y baigner en août.
Voilà. Enfin, alors je veux bien mettre une petite pièce.
La filtration d'un bassin et le volume de la Seine.
Excusez-moi, je voudrais qu'on prenne en ligne tout de suite Wari, qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Wari, qui est commerçant et qui a écouté Emmanuel Macron ce matin sur RMC. Bonjour Wari.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et alors, merci d'être avec nous. Vous êtes rassuré ou pas par les propos du président de la République ?
J'ai jamais été inquiet. Je pense que la France, elle a l'habitude de tous ces événements. Moi, j'ai connu 98 la Coupe du Monde. J'ai connu tous les événements. On n'a pas eu de grands problèmes. Maintenant, on est jamais à l'abri d'un attentat, d'un électron libre. Ça, c'est l'imprévu et on peut rien y faire. Enfin, entre guillemets, on peut rien y faire. Mais je pense que la sécurité, les événements sont bien gérés en France. Maintenant, c'est pas les gros attentats qui m'inquiètent. Moi, c'est tout ce qui arrive à la périphérie en termes de pollution.
C'est-à-dire
nous, par exemple, on a eu un échangeur, l'autoroute A1, avec l'échangeur A1. C'est un scandale sanitaire écolo. Ça passe à côté de deux écoles. On a, heureusement, ils ont pas mis la piste cyclable sur la nationale 1, l'avenue Wilson. Ça aurait été un bouchon qui aurait duré des heures et des heures. On a tous les pickpockets qui se sont donné rendez-vous à Saint-Denis. J'habite Saint-Denis à 100 mètres du Stade de France. C'est devenu infernal, notre ville, actuellement. Même le maire s'est fait voler son portable la semaine dernière. Mieux vaut rire. Je vous assure, visuellement, vous venez, vous voyez le nombre de pickpockets, de faux mendiants, de la petite
insécurité. Ouais, enfin, il y en a aussi dans le métro, hein, donc,
il y a en
plein Paris, hein.
Je suis pas là pour grossir, mais je vous assure que vous le voyez visuellement quand nous on vit là-bas. Il y a un changement. Je veux dire, tous les jours, c'est les vols ont explosé, les cambriolages ont explosé.
Donc vous n'êtes pas hyper rassuré, en fait.
Non, je suis pas hyper rassuré pour tout ce qui est en périphérie de ce bel événement. Mais voilà, moi, quand on parle d'attentat, de sécurité, je sais très bien que nos autorités ont fait le nécessaire et qu'ils nous disent peut-être il y a un plan B, un plan C. Mais ça, ils l'ont dans les cartons depuis des années.
Mais bien sûr.
Voilà.
Vous, est-ce que vous pensez, Wari, que ce sera une super fête populaire, ces Jeux Olympiques? Est-ce que vous faites partie de ces Français qui sont minoritaires, mais qui pensent que ce sera un magnifique événement?
Alors je suis d'accord à moitié. Ça sera une super fête populaire. J'y crois absolument pas, hein, quand on voit le prix des places.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, les invitations, on en attend la couleur. Il y en a 10 000 à Saint-Denis, par exemple, ou il y en a 100 000 en Seine-Saint-Denis. Bon, on sait qui seront les gagnants, on connaît déjà la liste. Est-ce que ça sera des jeux populaires? Non, ça sera des jeux magnifiques. Ça sera une vitrine pour la France, c'est super pour la France, ça nous amène des touristes. Mais moi, j'ai qu'une seule hâte, j'habite à 100 mètres du Stade de France, c'est de me sauver.
Ah, vous louez votre appartement, donc?
Non, je le loue même pas, je le barricade. Non, je le loue pas. Mais c'est vrai que on est exclu de ces jeux-là.
Ouais,
la population, elle est exclue. Moi, je parle en termes de Dionysien, de Saint-Denis. La population, elle est exclue. La mairie met 2-3 ballons devant la mairie. Elle croit qu'elle fait des jeux populaires.
Ça, je suis assez d'accord avec vous. Mais c'est pareil pour les Parisiens qui sont totalement exclus de ces jeux. Tous les habitants sont exclus, en fait. Merci beaucoup. Merci, Wari, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, je vous souhaite de bons Jeux Olympiques. Voilà, quand même. On verra si ça se passera bien. Justement, grande fête populaire ou pas grande fête populaire pour vous, Perico, ces Jeux Olympiques?
Méga fête populaire. Parce que, bon, c'est quand même un événement national, international. Alors ensuite, quand on rentre dans le détail, c'est un peu moins populaire que ce qu'on pensait vis-à-vis des tarifs, vis-à-vis de la sélection. Et s'il y a une restriction d'ordre de sécurité, ça va tout de suite casser l'ambiance et l'euphorie. Voilà. Et attention, l'attentat n'a pas l'obligation de se produire à l'endroit. Ils pourront, s'ils veulent. Maintenant, on a trois entités. On a l'islamisme qui peut vouloir faire un attentat. Peut-être la Russie qui peut l'organiser, faire croire que c'est un autre. Et maintenant, on a l'Iran. Voilà, qui aussi
oui,
enfin se met
bon,
sur...
Alors là, oui, non, mais d'accord. Ok, bah super.
Non,
bah,
je veux dire, écoutez, on multiplie aujourd'hui. La crise internationale fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des raisons de provoquer un chaos et un trouble en Europe occidentale. Voilà, pour des raisons. Et que, finalement, le contexte des Jeux Olympiques, même si la France est parlée, ça peut être à la Tour Eiffel, ça peut être ailleurs. Et ça fout tout en l'air.
Mais cela dit...
Alors, on va pas arrêter de vivre.
Excuse-moi, mais...
C'est le discours officiel qui me pose un problème.
Non, mais là, vu la surveillance qu'il va y avoir, je veux dire, pour tenter un attentat à Paris pendant les Jeux Olympiques, enfin, faut... Tu vois, à la limite,
alors, je me dis que le 13 novembre, les terroristes ne seraient pas arrivés en retard parce qu'ils se sont plantés, ils se faisaient péter dans la file.
Certes, mais sauf qu'on n'était pas ultra préparé comme là.
D'accord.
Voilà, ça change.
Et puis tu pourras jamais rien contre la personne, l'individu seul, radicalisé tout seul.
Donc qui nous savons que nous allons y aller.
On a des Anglais le 14 juillet.
Nous savons que nous allons y aller avec les pétamoclès. On va y aller les pétamoclès sur la tête. Et puis, j'allais dire, la probabilité qu'il se passe quelque chose est quand même mineure, mais pas nulle.
Elle sera jamais nulle.
Et qu'il suffit de trois morts à la Tour Eiffel ou au Louvre pour que tout s'arrête. Donc on est une cible. Est une cible.
Perico,
quand l'exécutif dit
on a prévu... pendant les JO.
Donc, ton raisonnement, c'est quoi? Quelle est ta conclusion? À t'écouter, j'ai l'impression que tu...
On a arrêté JO, qu'est-ce qu'on
voilà,
fait?
Voilà, c'est ça. J'ai l'impression
non.
que tu médites
pas de
même
ça.
Pour dire...
Non, je crois que...
Le risque zéro n'existe pas. Par définition, un événement aussi important que les Jeux Olympiques...
Non. Moi, je me tiens aux ordres de Estelle.
Pardon.
Le débat là, c'est la déclaration
vous
politique.
Vous êtes-il rassuré?
On n'est pas en train de remettre en cause les Jeux Olympiques. On est en train de dire est-ce que. Ah non, il n'a pas rassuré.
Voilà, il n'a pas rassuré.
Mais la transparence peut être quelque chose de très inquiétant.
Il a été. Non, mais enfin, franchement.
Non, mais justement, c'est pas la transparence.
Qu'est-ce qu'il aurait dû dire après tout? Vraiment, on parle des Jeux Olympiques. C'est pas le marathon de Meurthe-et-Moselle.
C'est l'écart entre
les Jeux Olympiques. C'est 3 milliards de.
Pierre, c'est l'écart entre les discours précédents et maintenant.
Mais là, je te rejoins là-dessus.
Voilà,
aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait pu faire?
Le 15 avril, on admet, c'est l'anniversaire de la flèche de Notre-Dame, vous vous souvenez, Et le 15 avril, on admet qu'il pourrait y avoir quelque chose. Vous vous rendez compte, l'état
de... Parce que les choses ont
changé. Je voudrais juste qu'on prenne en ligne notre invité sur ce débat, c'est Benjamin Morel, politologue et maître de conférence en droit public à l'université Paris 2. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Benjamin Morel. Est-ce que vous avez trouvé Emmanuel Macron rassurant? Est-ce que vous l'avez trouvé bon déjà ce matin?
Alors, rassurant, modérément, mais peut-être suis-je naturellement inquiet, donc là c'est très très personnel, mais au vu des enquêtes qui aujourd'hui apparaissent sur ces sujets, je doute qu'il y ait réellement une transformation de l'opinion à la suite de cette interview. Est-ce qu'il a été bon? Je dirais que sur ce type d'interaction, il est plutôt en effet pas mauvais. Et la question, c'est quelle portée ça va avoir. Et là, la portée risque d'être relativement limitée, d'abord parce que le créneau horaire et journalier peut être considéré comme étant assez étonnant quand vous voulez toucher de manière très très large la population, notamment la population des actifs parisiens. Et deuxièmement, vous avez quand même...
C'est une tranche horaire très écoutée, l'interview, effectivement, entre 8h30 et 9h, ils ont poussé un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un créneau très écouté en radio.
C'est très écouté, mais derrière, l'important, c'est la portée du message. Autrement dit, dans ce cadre-là, vous ne visez pas que les gens qui vont vous regarder. Visez, en fait, de manière très, très générale, les reprises, en effet. Qu'est-ce qui restera de ça ce soir, quand une grande partie de la population regardera les journaux télévisés? C'est pas si évident, vous voyez, pour arriver à faire vivre votre information. Je trouve le créneau assez étonnant. Ensuite, le deuxième élément, c'est que vous avez déjà une opinion qui s'est en grande partie cristallisée sur ces jeux. C'est un peu tard, en réalité, pour rassurer. Autrement dit, on voit que, au moins à peu près depuis un an, l'idée générale que ça se passera assez difficilement s'est incrustée dans l'opinion. Arriver à transformer, à changer le paradigme sur un événement aussi tard, c'est quand même pas mission impossible, mais c'est quand même compliqué.
Mais Emmanuel Macron, effectivement, Perico Légas le soulignait, c'est-à-dire que pour la première fois, vous avez le président de la République qui dit le risque d'attentat n'est pas nul, il y a un plan B, il y a un plan C. Est-ce que finalement, Emmanuel Macron a raison de ne pas nous mentir?
Je pense, oui, parce que de toute façon, prenez, ça semble n'avoir rien à voir, mais en fait, ça a tout à voir. Prenez la crise Covid. Lors de la crise Covid, on a fait des enquêtes après le premier confinement. Et ces enquêtes montraient, des enquêtes comparées entre les différents États, que les États qui avaient dit la vérité, parfois on ne sait pas, on a des plans B, mais on a des hésitations, eh bien, s'en tiraient beaucoup mieux en termes de confiance que les États qui avaient donné le sentiment, eh bien, qu'ils savaient et qu'ils imposaient de manière relativement ex cathedra des visions qui, en fait, quelques semaines plus tard, s'étaient avérées plus compliquées à consentir. Et donc, le fait de mettre en avant des incertitudes, mais de montrer que ces incertitudes, eh bien, elles sont considérées, elles sont également prévues, elles sont palliées c'est par ça, des positions de repli, c'est plutôt intelligent et c'est plutôt une bonne façon de rassurer la population.
Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin Morel, d'avoir été notre invité. On va terminer avec Thomas, qui nous appelle des Yvelines, et Thomas, qui, lui, est ravi, bien sûr, que ces Jeux Olympiques se tiennent à Paris, parce que vous avez plein de places, hein, Thomas, c'est ça ?
Oui, bah, exactement. C'est déjà bonjour à tous.
Bonjour.
Mais oui, je vous ai déjà envoyé un message dernièrement et vous m'avez dit que j'avais hypothéqué ma maison. Mais ce n'est pas vrai parce que étant handicapé, j'ai des places pas trop chères et très bien placées.
Ah, j'avais dit ça parce que vous avez dit que vous alliez voir une vingtaine d'épreuves. Oui, c'est possible. Dire, mais...
J'ai la moitié, 72 euros à peu près la place. Mais donc pour en revenir au sujet, oui, moi ce matin le président a juste confirmé ce que je pensais, c'est que je pense qu'on est essaie d'anticiper un maximum et j'ai confiance en les forces de renseignement et de police de l'État. Donc moi je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Il faut juste éviter, je pense, s'il doit y en avoir un attentat, les cérémonies d'ouverture et de clôture.
Oui, mais qui seront aussi les cérémonies les mieux gardées, les plus surveillées aussi. Donc, mais en tout cas, voilà. Mais Thomas, on vous souhaite de joyeux Jeux Olympiques, 20 épreuves. Vous avez bien de la chance de vivre des Jeux absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, des places pour les Jeux, on vous en fait gagner tout au long de l'émission. Merci Thomas d'avoir été avec nous. On va voir le résultat de notre sondage. Rémi, Emmanuel Macron vous a-t-il rassuré avec son interview ce matin sur RMC ?
10 ans début d'émission, il y a encore du chemin à parcourir pour rassurer. Hein. C'est le nom qui l'emporte pour 86% de ceux qui sont dans le réseau.
Les gens sont pas raisonnables. On va s'amuser, ça va être formidable.
Rassurés, ils veulent pas forcément.
Non, mais 86%, moi, ça me paraît énorme.
J'avoue, je
ne m'attendais pas à ça.
Alors, avant qu'il parle, il y en avait 72. Ouais. Il a fait 14 de plus. Il est formidable.
Mais les Français critiquent toujours avant et c'est la bonne tendance.
Et plus on va y aller, plus ça va baisser.
Mais bien sûr.
C'est toujours comme ça.
Nous commentions la déclaration de la République, je rappelle.
Dans un instant, on va parler d'un autre chiffre. Tiens, 32%, c'est le nombre d'intentions de vote pour Jordan Bardella pour les prochaines européennes. Est-ce que les jeux sont faits ? On en parle avec vous dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 31, nous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, Thierry Moreau, Pierrick Olégas et Pierre Rondeau. Oui, on est avec vous également au 32-16 pour commenter le chiffre du jour. Selon une enquête Ipsos parue ce week-end, Jordan Bardella recueillerait désormais 32% des intentions de vote pour les élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. Rémi Barré, jamais le président du RN n'a été aussi haut.
Exactement, 32% des intentions de vote le 9 juin pour la tête de liste du RN, c'est un point de plus qu'il y a un mois. Surtout, Jordan Bardella creuse l'écart avec les autres candidats. La candidate macroniste Valérie Hayé perd 2 points. Elle est désormais à 16% des intentions de vote et elle est dans la marge d'erreur pour la 2e place au coude à coude. Marge d'erreur, hein, avec la liste PS menée par Raphaël Glucksmann, qui est à 13%. La liste de la France Insoumise menée par Manon Aubry et celle des écologistes conduite par Marie Toussaint sont très loin. Elles recueillent environ chacune 7% des intentions de vote. Et le risque de n'envoyer aucun député au Parlement européen est désormais réel pour la liste LR de François-Xavier Bellamy, qui ne pourrait donc ne pas franchir la barre fatidique des 5%. Il est à 6,5% d'intention de vote, tout comme d'ailleurs Marion Maréchal, qui est pour le parti zémouriste Reconquête. Jordan Bardella, on l'a compris, fait course seul en tête devant tous les autres. Et surtout, les intentions de vote en sa faveur semblent acquises. Si les 2/3 des personnes interrogées, 63%, assurent que leur choix est définitif, ils sont 80% à l'affirmer parmi les électeurs du Rassemblement National.
Alors, les jeux sont-ils faits concernant les élections européennes ? Thierry Moreau.
D'abord, j'ai envie de dire, rien n'est jamais joué jusqu'au jour.
Enfin, là, quand même, ça semble.
Très clairement. On a vu par le passé des catastrophes de communication qui ont pu basculer. D'abord, parce qu'il peut y avoir un événement international, par exemple, qui peut tout bouleverser entre maintenant et le jour du vote. Ça, c'est la première chose. Il peut y avoir aussi... il y a le fait aussi que la campagne ne fait que démarrer maintenant. Je trouve qu'elle a démarré très tardivement. On a eu hier le programme de LFI, complètement développé. Il y a un certain nombre de Renaissance n'a pas encore complètement mis au point son programme. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à venir. Il y a des dynamiques. C'est vrai qu'il y a une dynamique Bardella, très claire. Moins il parle, plus il monte. Il y a des dynamiques où, au contraire, Glucksmann, plus il parle, plus il grimpe, dans des proportions moins. Ce qui est fou, c'est que le premier, en l'occurrence Jordan Bardella, fait deux fois le score de son suivant, ce qui est quand même donc une vraie dynamique. Après, les candidats, il peut y avoir une catastrophe de com', hein. N'oubliez pas, Jospin dans un avion qui dit que Chirac est trop vieux, et il y a une cassure dans la campagne. Et...
Ouais, mais c'est les présidentielles.
Oui, mais il peut y avoir, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les buzz possibles, il peut y avoir un accident de com' qui fait qu'il y a quelque chose qui s'emballe. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on n'est pas encore sûr du taux d'abstention. On sait qu'il sera très important. D'ailleurs, je m'étonne que le gouvernement n'ait pas fait des campagnes massives pour dire aux gens de s'inscrire sur les listes et ensuite d'aller voter. Ça, c'est un truc, c'est, moi, qui non, me
mais c'est fait à dessein. Il le
oui, je sais que c'est fait à dessein, mais je trouve ça pas bien.
Oui, bien sûr.
Exactement, c'est pas bien.
Pierre Rondeau.
Alors, est-ce qu'elle est jouée ou non? Pour la première place, il me semble que c'est fait.
C'est acté.
C'est
pour la première place.
La première place, Jordan Bardella sera en tête. Hein. Vous l'avez rappelé, 80% des sondés votant RN sont sûrs et certains de voter RN. Donc à ce niveau-là,
il a un socle. Quoi.
Lorsqu'il parle dans les médias, il parle rarement dans les médias, mais lorsqu'il participe à un débat, on sent qu'il ne maîtrise pas les dossiers européens, qu'il ne maîtrise pas les éléments de langage, de campagne et d'autres. Et pour autant, il continue à avoir un soutien en masse de la part des Français. Donc la première place, elle est actée. Là où il y a un suspense, si on a envie d'accorder du suspense à une élection européenne, c'est la deuxième place entre Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann. Ouais. C'est savoir s'il y aura un croisement des courbes, si Raphaël Glucksmann du PS et Place Publique va réussir à dépasser la majorité présidentielle et passer deuxième. Et on est vraiment...
Ce sera un énorme camouflet.
Ah mais totalement. Et on est sur un face-à-face très intéressant pour la campagne, parce que faut dire les choses, la campagne européenne, elle motive pas les foules, on parle du taux d'abstention.
Et puis Valérie Ayé, elle peut faire trois fois les Champs-Élysées, personne ne m'aura un autographe, parce que je veux dire, ça, personne ne la connaît. Valérie Ayé, on a découvert son nom, là, je veux dire, personne ne la connaît, le grand public ne la connaît pas.
On la connaît pas, elle est en termes de charisme lors de meetings ou de débats, elle n'impose pas son style.
Ils n'ont pas envoyé un leader, quoi. C'est ça.
Ils n'ont pas envoyé un leader, mais il me semble que personne ne voulait y aller. Il me semble que Bruno Le Maire, on lui a proposé, il a refusé. Il me semble que
il y avait le nom d'Olivier Véran.
Olivier Véran, effectivement, on lui a demandé, il a préféré être chirurgien esthétique. Donc voilà, c'est cette campagne européenne, des européennes, ne motive pas les foules. Ce sera intéressant de voir le taux d'abstention et le taux de participation. Ouais. Si on va réussir ou non à, tu disais Thierry, que la campagne vient de commencer, donc est-ce que progressivement, jusqu'au mois de mai ou jusqu'au mois de juin, on va avoir un intérêt pour ces élections et un taux de participation, ou au contraire, ça va se tasser, il y aura l'Euro de football à ce moment-là, donc...
Ça t'empêche pas d'aller voter, parce qu'a priori tu peux aller voter le matin et les matchs.
Oui, je sais, mais à chaque fois,
c'est l'Europe, l'Euro.
En plus.
On va encore nous dire, et s'il fait beau, les gens vont partir en week-end. Chaque élection, on a le droit à la même chose.
Il fait beau, il y a Roland Garros, il y a l'Euro, il y a le soleil. Bon, on va pas aller voter.
Normalement, le 9 juin, Roland Garros.
Il y a un désintérêt de la politique quand même, je pense.
C'est la dernière semaine de mai, première semaine.
Il y a un désintérêt de la politique quand même.
Et il y a un désintérêt malheureux de la politique. Encore plus pour les questions européennes qui sont ô combien importantes.
Mais après, l'abstention traditionnellement favorise toujours les partis extrêmes, donc favorisera Jordan Bardella. Mais en même temps, ce sera une excuse pour le gouvernement pour dire mais regardez, il y a une telle abstention. Donc finalement, le RN est à 30%, mais si les gens étaient allés voter, nous on aurait fait un meilleur
score. Ils n'ont pas fait l'effort de faire une campagne pour une inscription sur les listes électorales.
Et ça favorise pas les filles aussi, c'est noté.
Exactement. Ouais. Perico Legas, est-ce que vous êtes quand même étonné par ce score de 32% de Jordan Bardella?
32.
L'habitude, c'était aller 28, 29, 27. Mais bon, là, il passe la barre des 30, quoi.
32 rectifiés, hein. On a eu les chiffres. On est à 33, 34, plutôt 32. On ajoute les 6, 7 de Reconquête. Ça fait à 40%. Cette mouvance-là est à 40%. C'est extrêmement inquiétant. En plus, l'état de colère de l'opinion et des Françaises et des Français est tel qu'ils peuvent aller voter pour un acte de protestation. On sait que l'européenne est l'occasion en général où on se défoule, puisqu'il n'y a pas d'enjeu national.
On n'y va
pas. Voilà. On n'y va pas où on vote pour. Bon, là, on sent que cette élection européenne sera plus représentative de l'état d'esprit des Français et des projections sur la gouvernance qu'ils veulent à l'avenir. Il y a toujours aux européennes, depuis 1994, c'était Bernard Tapie qui était tête de liste pour le parti radical de gauche, qui avait fait 12%. Il était passé devant Michel Rocard, qui était à
10. Envoyé par Mitterrand.
On a eu les écologistes la dernière fois, qui ont fait 13. Cohn-Bendit en avait fait un peu plus aussi. Il y a toujours donc une liste. Et cette année, c'est la liste Glucksmann qui fédère un petit peu les gens qui sont... il a piqué des voix à l'écologie. C'est pas dit.
De la gauche.
L'aile gauche de la Macronie, il est déçu de la LFI.
Non, il pique à la Macronie. Quand Madame Hayé baisse, c'est lui qui monte parce qu'on prend. C'est normal. Les macronistes de gauche qui sont allés voter Macron sont affreusement déçus, se sentent même plutôt cocus, et ils vont aller vers Glucksmann où ils vont se faire tromper une deuxième fois. Mais ça, c'est un autre concept. Mais là, 40% pour la droite nationaliste, c'est quand même un signe. Si on avait su ça un jour, qu'on arriverait à ce score-là. Ça fait longtemps qu'une mouvance politique n'a pas fait 40% au premier tour, parce qu'en fait, il n'y a qu'un tour en France. Très longtemps.
Rémi, on a plein de messages sur la PRMC.
Allez, ce message de Mario qui nous dit, pour le prochain sujet, donc celui dont on parle, la seule chose qui est jouée, Estelle ou Thierry, c'est que la division a été créée dans ce pays. La division, la haine, et maintenant que la haine s'est installée, c'est le chaos qui risque de nous arriver.
José est avec nous. Il nous a appelé au 32-16 depuis la Haute-Savoie. Bonjour José.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour.
Merci de m'accueillir. Vous vouliez réagir sur ce débat, José. Est-ce que pour vous, les jeux sont faits pour les européennes?
Bah écoutez, on ne sait jamais ce que peut réserver une élection. Ça reste une projection et un sondage. Cependant, on peut quand même penser que le RN sera en tête. Il l'était en 2019, à 22%, je crois, de mémoire. Ou à 23%. Mmh. Ils ont pris 5 points en 5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander d'où viennent ces voix. Et je crois que Périgot l'a dit, y a aussi des votes de cadres qui vont s'orienter vers le RN. Il faut aussi bien...
C'est minoritaire quand même.
Les trois domaines principaux, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité et le système de santé. Eh ben, on est sur trois problématiques nationales. Je pense que cette élection va être une projection de ce qui va se passer en France prochainement. Et je crois que Monsieur Jordan Bardella, tout comme Marine Le Pen, en même temps, ils ont été servis par beaucoup de politiques côté mise en échec. Ça peut être aussi un vote au mois de juin anti-Macron. 2019, il était au pouvoir depuis 2 ans. Donc je pense que la politique de Monsieur Macron va être sanctionnée au mois de juin.
De toute façon, il ne peut pas se représenter.
Non, oui, d'accord, mais ça va quand même être une sanction, et cette sanction sera traduite par une arrivée au RN en force, je pense, en force. Et vous verrez que la France va prendre le même chemin que certains pays européens en termes d'idéologie politique, ce qui est terrible. Et l'actualité leur sert la soupe, hein, excusez-moi de parler comme ça, mais en même temps...
Alors l'international sert assez rarement l'extrême droite, enfin je veux dire...
C'est ceux qui sont installés.
On a bien vu que Emmanuel Macron, quand il y avait eu la crise en Ukraine, ça lui avait aussi profité, parce que voilà, le président de la République a une certaine stature, etc. Donc ça profite plutôt au pouvoir en place. Merci José, en tout cas, d'avoir été avec nous. Thierry Moreau, est-ce que s'il y a un score fleuve effectivement du RN pour les européennes, ça préfigure de ce qui pourrait se passer pour les présidentielles, ou est-ce que c'est totalement différent? On sait que c'est une élection à un tour plutôt qu'à deux tours. C'est une élection plutôt, on signifie son ras-le-bol aux européennes, peut-être un petit peu moins à la présidentielle.
Sauf qu'on a assisté quand même dans les élections précédentes, présidentielles précédentes, aussi à des votes protestataires, c'est-à-dire à des votes contre au fait qu'on votait pas forcément pour un candidat, mais contre un candidat.
Notamment en 2007 contre Sarkozy.
Absolument. Et donc, cette histoire de vote protestataire qui va s'exprimer là, au moment des européennes, il est forcément le symptôme de quelque chose qui se passe dans notre société.
Il est le symptôme, mais malgré tout, alors oui, sur ce point tu as raison, mais tout de même, historiquement, les élections européennes n'ont pas permis un tremplin ou une piste d'envolage
Je rajouterai à ton raisonnement qu'il y a une chose, c'est qu'on ne sait pas qui va incarner ce centre droit qui est incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui ne peut donc pas se représenter, et donc qui va être la personne qui va sortir du chapeau. Et suivant que ça soit Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ce sera pas la même chose, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs.
Tout est possible.
François Bayrou.
Estelle, oui, tout est possible.
Ce que je veux dire, c'est que du chapeau, c'est ce que je veux dire.
C'est pour ça que la projection vers les présidentielles, d'abord, c'est très loin.
Oui, c'est très loin.
C'est très loin. C'est deux tours et on ne sait pas qui seront les candidats.
C'est un bonheur parce que tout est possible. Je vous signale que Marine Le Pen est à 42-6 au deuxième tour, donc elle est déjà deux points au-dessus.
Oui, enfin, on est loin.
Oui, enfin, oui.
C'est très bien comment ça marche une marque présidentielle.
Non, je réponds à Pierrandeau qui dit c'est pas un tremplin, l'européenne. Elle est déjà à 42 au présidentiel.
C'est une tendance.
En sondage.
42 au second tour.
Non, je vous parle du score qu'elle a fait.
Ah, pardon.
Ah oui, pardon.
Ah ben, on parle de quoi, là? On parle des faits ou on parle de...
D'accord,
non, je parle des corps, du score qu'elle a fait.
J'ai du mal à se faire comprendre.
Oui, oui, non, parce que comme ils sont un petit peu, tu vois.
Voilà. Ben, on est
donc,
beaucoup, alors.
Elle a fait 35 en 2017, 42 en 2022.
Oui.
Là, si on a l'extrême droite 40 au total, plus du Dupont-Aignan qui se présente pas, mais qui peut rajouter, 0, on est 5, à plus de 40. Ben, ça présage, de toutes manières, je vous signale que dans les milieux du pouvoir, on considère que c'est perdu 2027. Ah bon, là, on est en train de voir comment limiter.
C'est vrai.
Ah bah là,
certains,
là, ils considèrent. Que c'est... Mais d'ailleurs, ils sont en train de calculer.
Non, même
ils sont en train de calculer 2032.
Ils tablent sur une cohabitation victoire présidentielle du RN et victoire majorité présidentielle.
Le but, ça serait que le RN n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale.
Une coalition.
Et d'avoir. Et là, on se pose en premier ministre, un peu comme Mélenchon l'a fait. Voilà. Et là, effectivement, il y a des gens qui se disent, je pourrais être le premier ministre de Marine Le Pen d'opposition. Et François Bayrou se positionne. Et
il peut se passer plein de choses.
Le RN dans la majorité absolue à l'Assemblée.
Ça va être assez passionnant d'ailleurs, hein, mais on
mais
est
c'est
dans
pour grand. Ça que je vous dis, pour les journalistes, c'est passionnant.
Tout à fait.
C'est passionnant,
bah,
c'est
il
la plus belle élection.
Déjà, on va voir si les JO sont réussis.
Oui.
Attends,
alors ça pèsera pas sur l'élection, la prochaine élection présidentielle.
Oh, non. Si c'est un échec, je peux dire que Macron, l'image de Macron, c'est juste un échec. Non, mais Macron, de la Macronie, je veux dire, de la majorité présidentielle.
C'est bien
Gabriel Attal, le premier de JO pendant les JO qui sont un échec, je peux vous dire que l'image de Gabriel Attal sera ternie.
Bah regarde, Édouard Philippe a une super belle image, et Édouard Philippe, c'est les gilets jaunes, c'est les 80 km/h.
Il a une petite casserole en plus là en ce moment, donc qui ne l'arrange pas.
Oui, mais bon, voilà, l'image, elle a largement le temps de changer. On termine avec des messages, Rémi, sur l'appli RMC.
Allez, j'ai ce message de Johan qui nous dit « Attention, ne pas surestimer l'impact des sondages ». On ne pilote pas avec des sondages. Voilà ce qu'il nous dit.
Oui.
Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Mais pas là, c'est vrai que les sondages sont quand même,
là, ça fait mal.
Sont quand même assez hauts. Les jeux sont-ils faits concernant l'élection européenne?
C'est ce que pense une majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ils sont 60% à estimer que les jeux sont d'ores et déjà faits pour le 9 juin, pour les élections européennes.
Ah, allez, on va continuer à parler. On va continuer à parler des jeux, mais des Jeux Olympiques cette fois-ci avec Anthony Morel. Et vous allez voir que l'IA, l'intelligence artificielle, va peut-être nous permettre d'avoir des médailles. Et puis ensuite à 13h on parlera voiture sur les Français qui cherchent un véhicule d'occasion. Et bien la moitié désormais recherche un véhicule de plus de 100 000 km. Est-ce que la voiture est devenue un luxe? C'est la question qu'on vous posera à 13h. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
10h50, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi, et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, on va parler intelligence artificielle et Jeux Olympiques. Nous sommes à 102 jours exactement de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Et l'intelligence artificielle est devenue une arme cruciale dans la recherche de la performance. On en trouve de plus en plus dans la préparation des athlètes.
Mais oui, elle pourrait même nous faire gagner des médailles, figurez-vous. Alors dès 2019, ce serait pas mal. Hein, la France s'est dotée d'un programme de recherche pour la haute performance sportive qui intégrait l'intelligence artificielle avec en ligne de mire évidemment les JO. Alors on va voir ce que ça donne au mois de juillet. Mais en tout cas, ça fait partie aujourd'hui de la boîte à outils des sportifs et des entraîneurs. Alors, il y a plein de choses. Il y a ce qu'on connaît déjà, l'analyse de données, des capteurs qu'on place sur les joueurs de foot, les joueurs de rugby. Ouais, ça, on analyse. Bon, ça, on connaît depuis longtemps. En revanche, ce qui est nouveau, un peu plus nouveau en tout cas, c'est la vision par ordinateur. C'est-à-dire qu'on va prendre des centaines d'heures de matchs. Alors ça peut être des sports co ou des sports individuels, peu importe. Et l'intelligence artificielle, on lui apprend à analyser ses matchs. Vous imaginez qu'il n'y a pas un coach humain qui va se taper des centaines d'heures de matchs à regarder. Là, l'IA va le faire pour un match de tennis par exemple, et elle va analyser de manière extrêmement fine la position du joueur, ses coups droits, ses revers, les trajectoires de balles, comment il tient la raquette. Et on va pouvoir à partir de ça, et bien déterminer les points forts et les points faibles par exemple de l'adversaire qu'on doit affronter le lendemain. Ça va être intéressant aussi pour la boxe, un outil qui s'appelle Deep Strike, qui est utilisé de la même manière. On va analyser de manière extrêmement fine chaque coup porté par le boxeur. Alors ça peut être moi pour essayer de m'améliorer, le coach va pouvoir en tirer des enseignements, ou alors ça peut être mon adversaire. Ouais, moi, il rigole. Pourquoi je ne pourrais pas boxer d'abord ? J'en sais rien. Ça peut être l'adversaire. Exactement. Ou alors l'adversaire pour, encore une fois, pouvoir détecter ses points faibles. Et là aussi, c'est des outils qui sont de plus en plus utilisés.
Alors, des outils utilisés pour optimiser la performance, mais aussi pour éviter les blessures. C'est l'autre gros enjeu, bien sûr, à quelques mois des JO.
Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces outils, y compris ceux dont je viens de vous parler, ils sont aussi bien utilisables par les professionnels que par les sportifs amateurs, que par toi et moi. Parce qu'en fait, la technologie est tellement avancée qu'on peut l'intégrer dans un smartphone aujourd'hui. Tiens, pour l'athlétisme, pour la course à pied, par exemple, un outil qui s'appelle Ochi, O-C-H-Y, vous pouvez tous l'utiliser, même pour votre footing du dimanche, qui va analyser la posture et la foulée. Hyper important pour les coureurs, quel que soit leur niveau. Est-ce que vous courez trop sur la pointe des pieds, trop sur le talon? Il suffit de répéter ce geste-là des milliers de fois. Il suffit qu'il y ait un petit défaut et vous allez avoir, je sais pas, une fracture de fatigue, une tendinite, un claquage au mollet. Et ben là, vous allez pouvoir
changer sa foulée. C'est quand même pas facile.
Alors c'est du boulot. Non, mais après ça remplace pas. Il faut aller voir un podologue, éventuellement un médecin du sport. Mais au moins l'application, elle peut vous dire le problème et l'identifier. Pour les nageurs, un petit outil qui s'appelle Triton, c'est un petit capteur qu'on met dans le bonnet de bain qui va analyser, là encore, toute la posture des nageurs, le temps qu'ils passent sous l'eau, et les informations sont envoyées vers la tablette ou le smartphone du coach. Et puis pour le rugby ou encore pour la boxe, on a maintenant des protège-dents intelligents avec là encore des algorithmes qui sont capables de détecter l'intensité des chocs. Et pendant les matchs, un algorithme va détecter les risques de commotion cérébrale ou de traumatisme crânien, par exemple, ce qui est un vrai enjeu de santé.
Et puis alors l'IA peut aussi servir à détecter le futur talent et des médaillés potentiels. Moi, c'est un peu tard, mais pour les futurs JO.
Pour les prochains, éventuellement, les travaux d'un chercheur français qui s'appelle Arthur Leroy de l'Institut de recherche biomédicale du sport. Il travaille avec les fédérations d'athlétisme, de natation et d'aviron pour détecter les signaux faibles. Pour comment est-ce qu'on fait pour déterminer qu'un jeune sportif a un énorme potentiel. Des fois, il passe entre les mailles du filet. Aujourd'hui, on a des entraîneurs humains. Ils prennent quelques athlètes de 12-13 ans parce qu'ils ont un potentiel. Ils le font à l'instinct. Ils ont l'habitude, évidemment. Ils disent celui-ci, voilà, on va essayer de les pousser vers l'élite, sauf que des fois il y en a, ils ont des maturités un petit peu plus tardives. Renaud Lavillény, le perchiste par exemple, il était moyen quand il était jeune, après il a explosé. Ou encore, on a Mathilde Gros qui était basketteuse et qui est venue au cyclisme complètement par hasard. Il y a eu un vélo qui est installé dans son centre d'entraînement.
Amélie Levaux, c'est pareil aussi.
Elle fait du vélo, elle se rend compte qu'elle est bonne, hop, et en fait elle est super forte en vélo. Et ben en fait l'IA va permettre de détecter, en analysant des millions et des millions de données, et c'est ce que fait ce chercheur, et bien des signaux faibles qui pourraient déterminer que une personne qui a l'air de rien, pourrait être en fait un futur champion de volley ou de triple saut, peu importe.
Merci beaucoup Anthony Morel. On parle de quoi demain ?
Demain on va parler de mal de dos.
Ah très bien, ouais. C'est mal de dos, mal du siècle.
Il paraît, hein.
Et vous avez des solutions ?
Ah y a un truc incroyable. Ouais.
Ah bon ?
Petite piqûre et c'est fini.
C'est pas vrai ?
Ouais.
C'est génial, mais on a tellement hâte d'être à demain. Merci beaucoup Anthony Morel. Dans un instant, on va parler voiture d'occasion. Un Français sur deux recherche désormais un véhicule de plus de 100 000 km. La voiture est-elle devenue un luxe? On en débat avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.